Alors, je voulais moi aussi commencer par dire que j'étais très contente de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Et j'espère pouvoir représenter un peu une troisième étape dans cette construction cumulative des savoirs en sciences sociales. Du coup, moi, à mon tour, en me servant de vos travaux pour faire avancer les miens, puisque je suis en train de finir ma thèse, je suis en quatrième année. Mais quand j'ai commencé, vous commenciez aussi déjà à développer un petit peu vos travaux dans des conférences. Vous avez donné un certain nombre de communications, puis il y a eu des articles. Et c'est vrai que ça a tout de suite résonné avec ce que je voulais faire, puisque de mon côté, j'essaye de montrer la construction sociale des rapports aux sciences des enfants. Du coup, j'essaye de voir comment se construisent les rapports aux sciences, alors tels qu'on les comprend à l'école, c'est-à-dire les sciences de la nature, comme la biologie, la chimie, la physique, et puis les sciences formelles comme les maths et l'informatique. Et j'aimerais bien montrer comment, chez des enfants qui ont à peu près le même âge que les vôtres, enfin que ceux que vous avez étudiés sur la fin, c'est-à-dire à partir à partir du CM1, comment progressivement se mettent en place des rapports aux sciences et des perceptions des sciences. Et du coup, là, il y a vraiment un point commun pour moi, méthodologique et théorique, avec ce que vous faites. Parce que c'est vraiment un des objectifs que j'ai, c'est de prendre une étude sociologique de l'enfance comme un point de départ pour explorer les genèses sociales des phénomènes, et dans mon cas, pour explorer les inégalités sociales, notamment de genre, de classe et de race devant les sciences. Donc il y a vraiment ces points communs-là, et je me retrouve parfaitement du coup, dans la façon dont vous développez l'approche théorique de l'enfance. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de discuter avec vous. Et en écoutant, je pensais par exemple que quand je me demande comment les enfants perçoivent et classent les métiers scientifiques, les premières choses qui viennent, c'est le propre et le sale. Ah ouais. De la même façon. D'abord, et donc c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir comment des métiers scientifiques qui sont de façon réaliste très haut classés dans la hiérarchie sociale, au départ sont mal perçus parce que les sciences, c'est sale, c'est assez dangereux, ça explose. Et du coup, on n'a pas envie, un peu comme archéologue, en fait. Au départ, ça ne fait pas envie. Et du coup, j'ai retrouvé pareil, l'archéologue, les mains pleines de terre, c'est crade, on ne veut pas faire ça. Et puis, deux ans plus tard, on est au milieu du collège, et là, c'est plus la même chose du tout. Donc, il y a vraiment des choses qui se retrouvent. Donc, je suis très contente de pouvoir en discuter. Du coup, j'avais trois questions à vous proposer. La première, elle vient directement d'une comparaison du coup entre ce que j'essaye de mettre en place dans mon travail et ce que vous faites de votre côté. Ça porte sur un peu des choix qu'on fait, comme vous l'avez dit, on choisit entre le mot transposition, le mot transfert, le mot recyclage. Et là, il y a une question que je voulais vous poser, c'est sur le choix que vous faites de l'expression origine migratoire, que du coup, peut-être qu'on vous l'a sûrement déjà demandé. Donc pourquoi préférer origine migratoire par rapport à race, par exemple? Alors race, bien évidemment, compris comme le construit social et pas comme une donnée biologique qui serait là préalablement. Et si je vous demande ça, c'est bien sûr parce qu'il y a beaucoup de travaux qui le font. Et entre autres, un travail dont vous parlez pas mal dans l'enfance de l'ordre, qui est celui de la sociologue américaine Annette Larrow, Unequal Childhoods. Et du coup, je prends cet exemple-là parce que c'est un travail qui n'est pas traduit en français. Et en fait, comme vous le mobilisez beaucoup, vous lui donnez une certaine visibilité. Et puis, Julie, tu en avais fait un compte-rendu pour Genèse, dans lequel tu disais justement qu'on pouvait regretter le fait qu'elle juxtapose un peu les variables genre, classe et race. Elle utilise race dans l'analyse, qu'elle les prend toutes, mais en même temps sans vraiment montrer comment elles fonctionnent ensemble. Et du coup, tu mentionnais à ce moment-là qu'elle n'arrivait pas vraiment à faire l'approche intersectionnelle dont on aurait pu, qu'on aurait pu attendre de son travail. Et du coup, voilà, je voulais aussi vous demander un petit peu ce que vous faites, vous, dans vos travaux, celui-là ou ceux que vous mettez en œuvre maintenant, ce que vous faites du concept d'intersectionnalité, c'est-à-dire de l'idée d'avoir une approche holiste des rapports de domination, de tenir ensemble simultanément les rapports de pouvoir qui peuvent être attachés au genre, à la classe, mais aussi à la race. Mais on pourrait ajouter d'autres choses, comme l'âge dont on vient un peu de parler, ou le handicap, et de les considérer, du coup, pas comme des rapports de domination qui simplement viennent s'ajouter les uns aux autres, mais au contraire comme des rapports interdépendants et qui se construisent mutuellement. Donc voilà, c'est vraiment juste pour avoir la façon dont peut-être vous avez fait vos choix d'outils et de vocabulaire dans ce travail-là. c'était la première piste de discussion. Pour préparer du coup cette séance, j'ai, en plus de lire le livre, j'ai été regarder un enregistrement d'une autre rencontre assez récente au CNRS. Et puis du coup, en le regardant, ça m'a amené à de nouvelles interrogations que je voulais vous soumettre. Et la première, c'est finalement de partir de ça, du fait que vous faites un peu une tournée avec cet ouvrage-là, vous en discutez beaucoup, il y a beaucoup de rencontres, il y a pas mal de comptes rendus de lecture. Et en fait, le jeu de cette réception par les pairs de votre travail, c'est aussi un peu toujours de subir des critiques. Et là, je repars le compte-rendu de l'ouvrage dans Lecture, qui est la revue de compte-rendu ici, ça se chef par « il faut bien faire une critique, c'est le jeu ». Et du coup, une de mes questions, c'est qu'est-ce que vous en faites de tous ces commentaires, ces retours qu'il y a sur votre travail ? Est-ce qu'il y en a qui vous ont semblé particulièrement intéressantes ou pertinentes au point de vous dire « bah oui, tiens, peut-être qu'il faut changer ça dans la suite » ou au contraire des moments de désarroi, de « mais pourquoi est-ce qu'on me reproche encore ça ?» ou « est-ce qu'on nous reproche encore ça ?» Donc, je ne veux pas vous faire dénoncer ceux qui vous auraient agacé dans les rencontres précédentes. Mais c'est un peu ça la question aussi. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on a sorti l'objet fini et après, il a un peu sa propre vie et ses réceptions par les pairs. Et du coup, comment on gère ça? Parce que d'un côté, c'est figé, c'est bon, c'est fini. Puis d'un autre côté, on continue d'en discuter, de vous faire des commentaires dessus. Donc voilà, c'était l'autre question. Donc si vous avez, vous, des exemples de choses qui vous ont amené à changer ou au contraire à rester sur ce que vous aviez choisi. Et puis, dernière chose que je voulais vous demander, aussi issue de ce que vous avez dit au CNRS, mais un peu de ce que vous avez commencé à dire ici, c'est comment, si vous pouvez préciser un peu, vous avez arbitré entre vous quand vous n'étiez pas d'accord. Parce que vous dites un peu parfois, on n'était pas d'accord, voire même là, on s'est bien pris la tête. Si ça pouvait être un peu plus développé, peut-être pas comment vous avez résolu, mais aussi pourquoi vous n'étiez pas d'accord au final. Et alors, au je vote. Sais que...
Parce que moi, j'ai toujours raison. Et Wilfried, ça dépend.
Je sais qu'en tout cas, dans la conférence, vous parliez d'un moment où vous étiez en désaccord sur l'usage. Enfin, j'ai pas très bien, du coup, compris ce qui vous posait problème l'un et l'autre sur quand les enfants utilisaient le mot marron pour décrire leurs camarades. Donc j'ai compris qu'il y avait un couac, mais j'aimerais bien, du coup, remuer un peu le couteau dans la plaie et savoir d'où vous viennent les divergences. Est-ce que c'est des façons de travailler? Est-ce que c'est des cadres, je sais pas, théoriques ou que chacun...
C'est le quotient intellectuel qui produit les divergences.
Et puis, du coup, je me disais aussi... c'est courant d'avoir des sociologues qui écrivent à deux, mais j'ai pas l'impression que ça soit si courant que ça de faire des entretiens à deux. Je sais pas s'il y a d'autres exemples, en tout cas j'en connais moins, donc là aussi je sais pas si vous aviez des choses à dire là-dessus. Et sur toujours cette idée de travailler à deux, comme Julie, après toi t'as fait un autre travail en binôme différent avec une auteure de BD, là aussi qu'est-ce que ça change par rapport à travailler avec un ou une sociologue de passer avec un binôme qui est encore complètement d'une autre profession.
C'est plus marrant.
C'est parce que... Et comment ça a été, comment tu l'as travaillé aussi. Voilà.
Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. C'est agréable, ces questions qui sont un peu décalées, du coup, qui sont un peu méta, mais du coup, elles sont neuves et originales.
Ouais. J'ai essayé.
Et du coup, d'ailleurs, la question de fond sur l'intersectionnalité, c'est une question qu'on nous pose pas tant que ça. Donc,
sur laquelle on a beaucoup réfléchi.
On a beaucoup réfléchi.
La tête. Ouais.
Comme ça se recoupe. Voilà.
Tu veux répondre sur.
Vas-y, je te laisse commencer. Moi, j'ai plein de réponses.
Sur l'intersectionnalité, je vais peut-être répondre ça, ouais. Parce que c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment... En fait, vous voyez, quand on voit les graphes tout à l'heure, là, il y a des moments où, en fait, une des questions qu'on a eues, c'est est-ce que les enfants s'expriment sur l'autre monde, en termes de sociabilité, qui est le monde des garçons et des filles. Donc ça, c'était une grande discussion qu'on a eue dans le livre, notamment, c'était après une intervention à Toulouse, je me souviens très bien. C'était en préparation d'intervention à Toulouse, parce que ça c'est aussi une réponse au passage, c'est qu'il y a beaucoup de critiques qui ont été intégrées au livre parce qu'il est en 2017 et que le premier papier qu'on a publié sur notre enquête, il était de 2012.
Ouais.
Donc en fait, on a publié assez vite et du coup on a eu des retours. Le livre a changé, il est fortement réécrit, mais il est quand même, c'est des approfondissements, des articles, etc. Bon, donc ça c'est une réponse rapide sur le... Bon, Julie t'en dira peut-être davantage, mais sur la question d'intersectionnalité, je vais filer ce truc-là, c'est qu'en gros, il y a un moment où tu te dis... Il y a quand même des on a réfléchi à ce que c'est que la notion de distance, en fait. Parce que sur un graphique, tu crées des distances, mais tu vois bien qu'elles ne sont éventuellement pas de la même nature. Par exemple, l'idée de dire que... donc là, je vous préviens, c'est un peu... sautez pas au plafond si vous dites « Est-ce qu'il est en train de dire ça ?» Mais je ne dis pas ça par naturalisme, etc. Je dis ça simplement quand on discute entre nous, d'essayer de réfléchir un petit peu comme ça, où on peut se lâcher un peu, quoi. Bon, et que c'est filmé, donc c'est très cool. Non, mais en gros, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire « Le commerce avec l'autre sexe, à la fin, il sera encouragé quand même un minimum. » Parce que quand même, la plupart du temps, alors c'est ça l'aspect un peu naturaliste, en gros, la plupart du temps, dans la plupart des familles, l'idée de dire qu'on va se reproduire éventuellement, on va avoir une petite copine, etc., fait partie du domaine du normal, alors qu'on le traite comme une distance sociale, et qu'il apparaît sur un graphique comme une distance sociale. Alors que la proximité avec des groupes ethniques différents, ou racisés, etc., ou des classes sociales différentes, c'est, donc là, la réflexion, ça serait, là je dis ça un peu comme ça, je te livre ça, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont travailler là-dessus beaucoup plus que nous, et qui, je pense toi qui disais racisé, moi ça me fait tilt tout de suite, donc je vois très bien que ça peut, c'est des gens qui s'intéressent à ces questions plus frontalement que nous. Mais du coup, la question qu'on se posait, c'était de dire, le concept d'intersectionnalité, est-ce qu'on ne devrait pas le discuter un peu comme ça? C'est-à-dire que quand on dit intersectionnalité et pas, comme tu dis, interdépendance, qui est quand même un petit peu différent, en fait, la métaphore, ça c'est un truc, c'est très métier de sociologue ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend cette métaphore-là? Ben, en fait, on imagine un système d'intersection, c'est-à-dire d'un plan commun dans lequel les forces se croisent. Un petit coup de classe, un petit coup de genre, un petit coup de race. Or, en fait, le problème, c'est que, vous voyez bien dans ce cas de la sociabilité, quand on commence à réfléchir à ça, ben, ça crée... Alors, le premier niveau, c'est que, est-ce que c'est le cas, de manière générale, est-ce que, en fait, la distance de sexe, c'est la même chose que la distance de classe ou de race, sachant qu'en fait, il y en a... qui ont quand même vertu à être réduites pour des questions de reproduction, alors qu'à l'inverse, on peut presque justement maintenir le contexte de reproduction. À l'inverse, on se reproduit jamais aussi bien que quand on va vraiment laisser les racisés, les gens de son groupe social, pas de son groupe social, ailleurs. Bon, donc ces questions-là, peut-être en l'historicisant un petit peu, en disant c'est pas que de tout temps la reproduction n'est pas condamnée, y compris biologique, n'est pas condamnée à être un commerce avec l'autre sexe. Voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, historiquement, en fait, dans l'état de la domination historique, on est dans cette situation-là. Et pour aller vers le plus concret, nous, notre matos, ça veut dire, est-ce que les enfants... Alors, on est revenu au matos, ça, c'était une discussion avec Julie, qui, évidemment, là, sur le point de vue, on n'était pas d'accord. Je pense que c'est plutôt elle qui a eu raison, finalement, pour le coup. C'est de dire, moi, je me demandais si on ne devait pas traiter de manière séparée, en gros, en fait, cette question du genre avec les autres questions, parce que, pour moi, j'avais le sentiment qu'il ne s'exprimait pas tant que ça sur les filles et les garçons. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, on en parle quand même un petit peu dans le livre, c'est-à-dire qu'en gros, qui c'est que t'aimes bien, qui c'est que t'aimes pas, bah, même les gens qu'ils aiment pas, ils disent, on dit pas tant que ça, alors on l'a finalement pas, mais ils disent pas tant que ça, on aime pas les filles, parce que d'une certaine manière, ça va de soi, en fait. Enfin, ceux qu'on aime et ça va pas, c'est ceux qu'on aime et ceux qu'on aime pas, en fait, c'est ceux de son monde. Et vous voyez, quand on a ce niveau de ségrégation, bah, en fait, ceux de son, le monde social et les questions des distances objectives, etc., ils s'organisent là-dedans, quoi. Alors, bon...
Un peu voilà. Comme si l'autre sexe était carrément...
Une autre planète, quoi.
Jusqu'à une autre...
Les hommes de Mars et les femmes de Vénus.
Non, mais un peu comme Maccoby qui disait, finalement, ouais. Deux cultures différentes.
Oui, des cultures séparées.
Et parce que c'est vrai qu'il fallait, à chaque fois, quand on leur demandait qui c'est tes copains ou qui c'est que t'aimes pas, il fallait leur dire, ils nous disaient les copains que des... Si c'était une fille, elles nous disaient que des filles. Et on était obligés de dire, et en garçon, il y a qui? Parce que ça leur venait pas à l'esprit. Donc on rajoutait ça.
Mais on a eu des réponses, quand même.
Mais ça, enfin, il m'est arrivé exactement la même chose, notamment en cinquième, où c'était très clair. Et après, je les ai vus, les uns avec les autres, dans des groupes mixtes. Mmh. Du coup, je me dis aussi, est-ce qu'on...
Oui, c'est ça. C'est dans leur... C'est pour ta raison de dire ça, c'est que dans leur univers perçu, en plus de ça, c'est qu'en gros, dans leur univers légitime de projection. C'est-à-dire, effectivement, ça, c'est aussi une question qu'on nous a posée, pour le coup, à Toulouse, il y a longtemps, mais qui est intéressante. C'est effectivement, attention, c'est quoi la différence entre vos structures déclaratives et les structures observées? Bon.
Oui, mais c'est quand même intéressant de voir.
Oui, mais par ailleurs, c'est pas si variable que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ouais. Moi, je vois qu'il fait de l'observation, là, directe. Bon, bah, voilà, en l'occurrence, quand tu fais des comptages d'interactions, c'est extrêmement gaspillé pour un résultat, bon, qui n'est pas non plus démentiellement différent que le déclaratif des enfants.
Et puis, on s'appuie sur des travaux ethnographiques comme ceux de la sociologue féministe Barry Thorne, qui, déjà, dans les années 80, avait documenté de manière ethnographique cette ségrégation des sociabilités enfantines par le sexe, centralement. Et qui allait être la même question, pourquoi est-ce qu'on dit origine migratoire et pas race et surtout, on pose souvent la question, on ne savait pas... donc les enfants qu'on a encadrés, c'est ceux issus de l'origine, issus de l'immigration africaine et asiatique. Donc ça va en fait vraiment dans le sens de ce qui nous intéressait, c'était les enfants racisés, avec une possible stigmatisation, puisque c'est ce qui revient quand même des fois, ceux on les aime pas parce que liés à une apparence corporelle. Parce qu'effectivement, au début, on s'est dit, mais si on prend l'origine étrangère, l'origine migratoire, pourquoi prendre que Africasie? Mais parce qu'on voyait très bien qu'il y en a certains qui ont. Une mère hollandaise et un père italien, et que ça va pas être perçu comme... ils vont pas être constitués comme des enfants racisés. Du coup, je pense qu'on aurait pu... Je sais plus qui nous a posé... on aurait pu dire racisés.
On aurait pu, et en même temps, là, moi qui file l'enquête actuelle, donc qui me repose une question en faisant les mêmes genres de choses, là, et je me suis dit, bah, du coup, je vais me faire raciser, puisque, pour le coup. Et en fait, en réalité, ça peut, je vais reprendre ce truc un peu moyen pour une raison toute bête, c'est qu'il y a d'autres aspects, en fait, que tu veux capter. Quand tu veux raciser, tu veux le capter, justement, sur cette question, en fait, d'altérité, par exemple, pour la question de perception des enfants, c'est fortement ça. Et en même temps, par exemple, tu vois, la question de. Participation à l'espace national politique, tu vois, par exemple, toi, nous il faut imaginer qu'aussi on n'a pas que le réseau à faire, on doit tenir on a une variable qu'on doit pas changer à chaque moment en fait. Donc on se dit, bah là, on a besoin d'un truc qui serait un petit peu de l'ordre de la participation à une culture nationale et qui est en plus qu'il y a des médiations très concrètes, c'est-à-dire regarder la télé uniquement dans sa langue. Ouais. Et alors, effectivement, tu veux dire, bah avec le hollandais ça fonctionne aussi, mais enfin, non, pas complètement parce que justement les proximités entre une société hollandaise et française en fait sont beaucoup moins, enfin, sont quand même pas de la même nature. Et alors, il faut réobjectiver de quoi on parle exactement, c'est-à-dire en gros, question de la scolarisation, c'est effectivement venir vers des choses qui permettent de dénaturaliser ces cultures, c'est ça qu'on parle, mais en même temps, du coup, c'est ce qui fait qu'en fait, bah, tu le vois très bien quand tu le mets à le faire, tu te dis, bah tiens, je vais dire racisé, parce qu'effectivement, je sais pas pourquoi je dis pas ça, peut-être par quoi, et en fait, il y a des moments où tu écris un truc où tu dis, bah non, ça va pas, parce que du coup, là, tu finis par être en train de dire que, en gros, c'est des aspects phénotypiques, en fait, tu vois, et en fait, c'est pas ça que tu veux capter, en ce que tu veux vouloir capter plutôt des différences d'ordre très très général, en fait, dans les conditions, notamment institutionnelles, de socialisation. Ou toi, ou par exemple aussi des choses de mobilité, ça, de connaissance, on développe au début du livre, tu sais, on parle un peu de ça, le fait de dire d'être exposé à deux espaces nationaux, des espaces culturels forts, et de l'être encore par la médiation de la télévision, etc. Bon, évidemment, encore une fois, le hollandais c'est aussi le cas, mais pas autant en fait que effectivement que je sais pas le tunisien ou.
Je suis d'accord au sens où c'est évident qu'on est quasiment obligé de doubler raciser de d'où viennent les parents, par exemple. Enfin, ouais. Je pense que du coup, on est.
Oui, c'est ça, en fait, il faudrait les deux.
C'est vrai que du coup, dans ta perspective, ça fait deux variables au lieu d'une. Et du coup...
Sur la question des critiques, il y a deux niveaux de réponse. C'est que, comme l'a dit Wilfried, mais du coup, je vais prendre un exemple précis. On a eu la chance, et j'étais venue à Lyon notamment, à l'IFE. Parler des inimitiés enfantines. Et on a présenté beaucoup ça avant d'avoir fini la rédaction. Et une critique qui revenait à chaque fois, qui n'a pas été posée aujourd'hui étonnamment, c'est mais ce que vous dites sur le scolaire, l'importance du scolaire, est-ce que ce n'est pas juste un artefact, un effet de la situation d'enquête? En gros, vous êtes pris pour des enseignants, forcément par ces enfants, vous faites des entretiens, donc un espèce de côté très... une situation extraordinaire dans l'enceinte scolaire, et donc finalement, s'ils vous répondent qu'ils n'aiment pas un tel parce qu'il a des mauvaises notes ou parce qu'il se comporte mal en classe, est-ce que ce n'est pas juste, encore avant-hier, Alain Chenu nous a un peu demandé ça quand même à Sciences Po, est-ce que ce n'est pas juste en fait un artefact qui, du coup, à chaque fois, et du coup, ça, on a vraiment travaillé cette question parce que nous, on était à la fois persuadés sur le temps long que non, et en même temps, du coup, on a vraiment changé la rédaction des choses concrètement. Et aussi, beaucoup la question qui est venue derrière aussi sur, du coup, comment s'expriment les mauvais en classe, par exemple, sur leurs ennemis. Et là, très systématiquement, on est retourné à l'intégralité des entretiens des mal classés sur l'échelle scolaire pour aller voir comment, quels arguments eux mettaient en avant. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des effets de saturation d'un matériau, puis après, suite à des critiques, on peut aller revoir plus précisément une partie pour se dire, bah tiens, en fait, peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose qui était moins massif, mais qui était présent chez eux. Et en fait, c'est là où, en fait, ça ne fait que renforcer ce côté-là, malheureux, mais où, en gros, on voit des enfants, c'est là, d'ailleurs, on a trouvé des exemples, qui nous disent, bah moi, je suis bête dans la classe, ce genre de choses, hein, le côté intériorisé, en partie au moins, les critères de classement, même quand ils vous déclassent, et du coup, les réutiliser. Mais aussi, du coup, ça nous a forcé à aussi essayer de dire, mais non, ce qu'on recueille là, ce n'est pas que lié à la situation d'enquête. Et du coup, aller pointer notamment des cas, beaucoup sur les amours entre enfants, qui montrent bien que malgré le fait que c'est ce que nous disent les enfants au cours d'une interaction qui dure une heure, ou un peu plus ou un peu moins, se jouent des enjeux pour eux, bien plus sur le temps long, et parfois très intimes. Par exemple, des enfants qui nous disent, avant, j'étais amoureux de lui, mais en fait, il s'est mis à avoir des mauvaises notes, donc ça peut être possible. Et surtout avec des croisements d'autres enfants qui disent, bah oui, elle est amoureuse de lui, mais après, il est devenu insolent. Ou d'autres qui nous disent, qui nous racontent comment, pour gagner l'amour de Pauline, par exemple, qui disait, il faut que j'améliore mes notes, et puis qui nous racontait ce qu'il était allé faire, etc. Donc il y avait un côté très pris, en fait, dans un quotidien plus large, évidemment, que ce moment de l'entretien. Donc tout ça, ça nous a obligés, parce que c'était une critique récurrente, mais qu'on avait déjà à cœur avant, mais ça nous a obligés à retourner, à prendre ça en charge et à lui donner une place qu'elle n'avait pas avant dans le livre. Après, les critiques après le livre, sur notre tournée... Notre tournée sur le livre, effectivement, cette semaine, demain, on est à Dijon et vendredi à Toulouse. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup. Disons quoi sur ces... sur ces critiques, ce qu'on va dire, c'est que déjà, des fois, il peut y avoir des effets de présentation ou des effets, on peut avoir l'air prétentieux ou impérialiste à se dire... mais en fait, en gros, à chaque fois, on redit, mais en fait, on a fait là une espèce de première pierre. Et puis évidemment qu'il faut continuer dans tous les sens pour étendre à d'autres configurations, un échantillon plus large d'enfants, etc., etc. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que dans le cadre du séminaire sciences sociales de l'enfance qu'on fait depuis 5 ans, là, on commence à avoir des étudiants qui, par exemple, vont dans les familles, qui font ce que... Et moi, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir une étudiante qui fait le terrain que je voudrais faire, mais avec les enfants, avec nos âges, avec nos conditions de travail. C'est plus possible d'aller dans les familles le soir. Sans qu'on soit trop vieux pour autant, mais il y a des choses qui sont plus faciles. Et après... Après, à terme, moi,
sur la dimension ethnographique.
Ce qu'on va peut-être faire aussi, c'est de lancer une enquête très large et dans plusieurs pays pour poursuivre et puis pour intégrer ces critiques, du moins les critiques qui nous semblent justifiées.
Moi, le mot que j'allais dire quand même là-dessus, c'est que, à ce stade-là, il y a beaucoup de critiques qu'on anticipe. Par contre, en fait, ce que ça a comme effet, en fait, les choses qu'elles sont formulées, c'est qu'on se dit, dis donc, on voit notre texte, on se dit, bon, ben voilà, on sait qu'il y a des faiblesses, tu vois. Et là, on dit, tiens, cet aspect-là, les gens en parlent, en fait. Ce truc-là, c'est un truc, il faut vraiment insister, en fait, ce truc-là, tu vois. Donc là, on ne peut pas réécrire, mais de se dire, ça, c'est un point. Souvent, c'est des faiblesses qu'on connaît, parce que, enfin, je sais pas, quand on est à deux, ça joue énormément. Quand on est à deux, c'est objection permanente l'un l'autre, en fait. Enfin, ça dépend comment les gens écrivent, mais nous, on écrit vraiment sur un mode assez conflictuel. C'est-à-dire, en gros, en disant machin, maintenant, là, t'exagères, là, machin. Bon, après, c'est pas également réparti, les critiques, les types de critiques des uns et des autres. Mais du coup, au final, sans lever le voile.
Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
Mais on se reproche pas les mêmes choses, ça que je veux dire. Bon. Mais du coup, effectivement, ça joue aussi dans le fait qu'on t'anticipe critique. C'est pas toi tout seul, en fait. C'est le fait que tu t'as déjà dit. Donc ça permet, tiens, par exemple, de parler de Marron, et puis comme ça, on pourra peut-être laisser la parole à la salle. Mais sur Marron, pour aller vite, c'est le côté... en fait, tout ce qu'on raconte, c'est quand même des choses qui sont de l'ordre de l'appréhension du monde social par les enfants, cette sociogenèse des perceptions, sur un mode qu'on peut dire assez vite post-kantien. C'est, en gros, il n'y a pas de perceptions qui ne sont pas médiées par des schèmes ou des choses qui sont issues du social, quoi, on peut dire ça comme ça. C'est absolument pas empiriste au sens philosophique du terme. C'est pas genre, il est comme ça, donc j'ai un rapport à lui. Sauf qu'il y a ce truc de marron. Donc 3-4 occurrents dans le plateau, pas beaucoup. C'est des gamins qui vous disent, je l'aime pas parce qu'il est marron. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, c'est la discussion...
Juste pour préciser, parce qu'en gros, vous avez compris, on cherche toujours, nous, à retracer l'origine des mots. Et donc, on les rattache à des institutions, parce qu'effectivement, on se dit que les mots ne viennent pas de nulle part et que les enfants ne les ont pas inventés. Sauf que là, ça semble, c'est un mot qui n'est pas utilisé par les adultes.
On dit pas des noirs qui sont marrons dans la vie quotidienne.
Bon. Pas les adultes.
Et donc, en fait, ça ressemble un petit peu à vraiment l'exception, quoi, qui ne va pas du tout avec votre modèle. C'est en gros, en fait, les enfants, ils voient une réalité telle qu'elle est. Enfin, voilà, ils la processent, comme dirait d'ailleurs les cognitivistes qui sont très, très empiristes au sens philosophique du terme, diraient ça. Marron, il y a des travaux d'ailleurs, en fait, je pense à, comment il s'appelle, Laurent Hirschfeld qui dit ça, la race, c'est là. Les enfants le voient, ils savent que non seulement ils voient ce que c'est que la race, puis ils savent en plus très, très, très tôt, donc ça veut dire que c'est naturel. Je vous conseille de lire, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup cité, mais lisez La règle de la goutte de sang dans l'homme,
de Laurent Hirschfeld, qui dit pourquoi les anthropologues n'aiment pas
quand
les
on lit ça, on se dit au bout d'un moment, il faudrait quand même que les sciences sociales réagissent. Parce que, autre chose, les gens nous disent souvent, on ne l'a pas fait là, mais ils nous disent, et votre rapport aux sciences cognitives, etc. Mais bon, au bout d'un moment,
on fait
le travail, mais il y a des moments, c'est confondant, quoi. C'est-à-dire, là, c'est. Parce qu'ils sont très jeunes, ils savent dès le départ donc, que la race est là, et qu'elle est aussi héréditaire. Parce qu'on a montré. De quel enfant il peut être le papa, voilà. Tiens, t'as trouvé, donc c'est bon. Donc en fait, ils savent que non. Donc ils l'ont dans le cerveau, en fait, parce que à l'issue d'un système évolutionnaire, on capte. Bon, bref, revenons à Marron. Donc là, le problème, c'est qu'on a Hirschfeld en plein milieu de notre modèle qui te dit, voilà, ils sont marrons, donc ils veulent pas. C'est l'altérité. Donc là, le travail pour nous, c'est pas de foutre ça sous le tapis. Dans le livre, il est question de ce truc-là. C'est pas le moment le plus. C'est pas le moment le modèle est le plus serré, mais c'est de dire. Il se trouve qu'on avait un super cas, parce que le moment où, dans les 2-3 cas où il nous parle de marron, il y en a un qui est génial, parce que je ne sais pas si je peux retrouver, mais il dit oui, bah, je l'aime pas parce qu'elle est marron, et ah bon, mais pourquoi tu n'aimes pas, pourquoi
t'aimes pas, t'aimes pas les marrons, là, il dit non, les marrons, elles sont moches et elles puent.
Les marrons, elles sont moches et elles puent, donc là, on se dit, ah, elles sont moches et elles puent. Enfin, ça, c'est pas à ce moment-là, mais après qu'on dit elle pue, c'est bon, c'est un modèle. Mais, et puis elle n'est pas bonne en classe, merci. Mais il revient et dit et moi, j'aime pas le marron, je préfère le bleu. Et là, du coup, nous, on fait une blague à ce moment-là, parce qu'il faut imaginer que nous, on était un peu détente quand même. Hein, donc on dit, bah, du coup, ça va être compliqué à avoir des schtroumpfs. Voilà. Mais l'histoire, c'est que justement, ça, on l'a utilisé en truc en disant que quand même, peut-être que là, on pouvait retrouver du social, c'est ça en fait, c'est le fait de la question de l'attention aux couleurs. Et cet exemple-là, en fait, nous aidait un peu, parce que l'attention aux couleurs, la pédagogie des couleurs, la pédagogie de la préférence, c'est quoi ta couleur préférée, l'idée de dire qu'on a des couleurs préférées, ça, c'est des choses qui sont sociales et historiques. Et que là-dessus, peut-être que ce qu'on n'aura pas, c'est la... En fait, on peut très bien... Je pense que c'est le truc que dit Lévi-Strauss quand il dit qu'il raconte des choses un peu censées être pour tout le monde, mais il dit au fond, quand on l'embête trop sur « ben non, ça marche pas », il dit « non, mais ne vous inquiétez pas, en fait, nous, c'est qu'une ligne d'explication dans une soupe ». Les choses qui sont plus compliquées. Donc ça veut dire que nous, retenez-le, on peut toujours dire ça à la fin. Donc nous, c'est ça, c'est de dire, bah, peut-être qu'il y a aussi des phénomènes empiristes, enfin, on ne tranche pas trop, on n'est pas philosophe, coup de bol, en fait, de perception immédiate des... Mais même à ce niveau-là, à ce moment-là, il faut peut-être dépasser le questionnement, non pas sur le fait de dire que de la charge, c'est par rapport à la question qui était posée par le monsieur qui est parti tout à l'heure, de la charge normative qu'il y a dans le schème ou dans la... Mais du point de vue d'une attention particulière à certaines propriétés. Et nous, on pense que, par exemple, cette attention particulière aux couleurs, eh ben, elle est éventuellement connectée. C'est celui-là,
elle est au programme de la maternelle. Elle est au programme de la maternelle.
Et c'est ce qui fait que, voilà, et que, par ailleurs, effectivement, après, il restera à expliquer qu'est-ce qui fait qu'on passe de marron avec une minuscule à noir avec une majuscule et qui, en fait, a des effets en fait, d'intégrer ni plus ni moins. Et ça, c'est toute la logique de la psychologie culturelle dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. D'intégration de l'histoire. Quoi. C'est-à-dire, en gros, de dire bah, qu'est-ce qui noir, c'est pas marron, parce que justement, c'est marron plus. L'histoire de la race en Occident. Voilà. Bon, voilà, voilà un peu l'idée. C'est un aperçu. Vous verrez, il y a des pages là-dessus qu'encore une fois, je ne pense pas que ce n'est pas forcément les pages les plus solides en fait, du livre, mais par contre, elles ont le mérite, je crois, en fait, de montrer en fait, comment. Voilà, et ça, ça peut te dire que ça, en gros, pour être simple, en gros, moi, je vais insister, parce qu'il faut dire les choses.
Oui,
moi, j'insistais beaucoup sur le côté, je voulais maintenir l'aspect en fait, social, en fait. Et Julie, en gros, était plus disposée à dire, bah là, en gros, on peut être tranquille et dire. Et du coup, en gros, bah moi, je tirais en disant, mais comment on peut trouver un moyen ? Et moi, j'ai mis marron, ou alors on s'en fout, parce que ça, faut être trop honnête. En gros, non, mais marron, tant pis. Voilà, il y a des moments
où. Moi, je voulais pas dire tant pis, je voulais qu'on s'attaque à ce truc-là, on s'est engueulé très fort plein de fois. Non, mais moi, c'est pas ça. Moi, je pensais que c'était un mot du groupe de pères.
Ah, c'était ça, oui. Et c'est Julie défendait l'idée marron dans les groupes de pères. Mais c'est possible, d'ailleurs. Hein.
Enfin, voilà. Et pour le coup, et pour le dire quand même, pour dire que nos désaccords, etc., il me semble hein, en fait que c'était, c'est pas toujours facile d'écrire à deux, travailler à deux, mais en tout cas, ça nous a poussé à, sur cette question-là, à faire quand même tout un développement auquel t'as pas rendu complètement justice, c'est-à-dire aller revoir les entretiens, toutes les occurrences du mot marron, parce qu'on n'était pas d'accord, ça nous a obligé à faire tout ça, et puis en fait, moi, tu m'as un peu ramené vers toi sur ce coup-là. Ouais. En grande partie, et de voir que, en fait, en tout cas, moi, mon côté qui disait, bah oui, mais elle voit que c'est marron, c'est bien la preuve qu'en tout cas, c'est pas médié, en tout cas, par les parents. Bah, après, quand on va revoir, on s'aperçoit que, un peu comme déprécié par la sexualisation, bah, en fait, ils le disent pas de n'importe qui, et que marron, ça pouvait être un problème pour les garçons, mais on lui dit, mais Rujiji, elle est marron, c'est pas grave. Ah non, c'est pas grave pour elle. Puis elle a un marron un peu moins foncé. Donc, en gros, en tout cas, de voir que cette utilisation du marron, il était pas purement empiriste, puisqu'il ne l'appliquait pas à certaines personnes, notamment il le faisait pour les filles, pas pour les garçons, etc. Et donc de voir que, bah oui, en fait, on peut toujours, enfin en tout cas, voilà, c'est aussi notre position, de toujours essayer de se dire qu'un rapport comme ça qui serait purement empiriste au monde social, ne serait-ce que la vision. Quand on observe, on sait bien qu'il y a des travaux sur la cognition sociale, ça ne veut rien dire de juste regarder une assemblée. Là, le regard, il est évidemment éduqué, etc.
Ouais. Je peux poser juste une petite question, puisqu'on vous a beaucoup posé des questions sur votre collaboration. Est-ce que vous pensez que le protocole d'enquête que vous avez mis en œuvre eût été possible d'être mis en œuvre par un chercheur travaillant seul ? Parce que vous avez interrogé des enfants qui étaient rassemblés collectivement. Et
Bah alors du coup, je peux raconter l'histoire autrement que la façon dont il le raconte Wilfried au début, sur l'histoire de l'enquête. C'est qu'effectivement, moi, je suis arrivée sur le terrain, j'ai négocié le terrain. Et en fait, ça s'est ouvert tellement vite que je me suis retrouvée sur le terrain, face à des demi-classes. Et là, je me suis dit, oulala, je vais jamais m'en sortir toute seule. Parce qu'effectivement, quand on est seul face à un groupe de 12 gamins, en fait, ce qui est très compliqué, c'est de tenir la double posture de, si on est la seule figure d'autorité, y a un côté que tu es obligé de faire un peu, faire en sorte que les conditions du dialogue soient possibles, mais qui va à l'encontre de ce qu'on sait en ethnographe, c'est-à-dire de ne surtout, nous, après, on a essayé de, le plus possible, déscolariser la relation d'enquête, ne jamais faire preuve d'autorité pour que les enfants puissent nous dire des choses qu'ils ne diraient pas sinon. Et du coup, je pouvais pas tenir en moi seule ces deux rôles. Et effectivement, après, et à ce moment-là, je suis allée voir Wilfried et j'ai dit tu veux pas venir faire ce terrain avec moi ?
D'accord.
Et parce que voilà, je pense que ça serait possible, mais je pense pas qu'on recueillerait la même finesse de matériel.
Ouais, je pense que du point de vue du nombre de trucs, c'est faisable, ce serait plus long simplement. Je pense que ça serait peut-être plus d'années, mais c'est vrai que du point de vue des séances collectives, c'est une galère pas possible. Mmh. C'est-à-dire que franchement, même des fois dans des binômes un peu vifs des CM, t'es là, tu te dis, bon, écoutez, moi, j'en ai de toute façon, j'en avais déjà fait un peu seul en fait avant. Et en gros, c'était quand t'es en binôme, c'est toujours compliqué, quoi. C'est en gros, ça dépend de l'âge des enfants. Il y en a qui sont très, puis sont hyper intéressés. Tout ça est différencié évidemment socialement, mais non, je pense qu'il y a vraiment des opérations qui ne le sont pas du tout. Ça, c'est certain. Je pense, enfin, qui sont vraiment très compliquées.
Là, je peux dire du coup répondre aux deux questions sur après quand j'ai enquêté seul une partie de l'année dans une école à Saint-Denis pour suivre la campagne de 2017. En fait, j'ai été seule de octobre à février, et après, Elisa Mandel m'a rejoint sur le terrain. Mais effectivement, donc dans la première phase de l'enquête, ce que j'ai fait seule, c'est de faire passer le questionnaire dans toutes les classes, pas le même, mais avec quand même des questions similaires pour pouvoir après comparer les terrains. C'est possible, parce que c'est en classe avec l'aide de l'enseignant, etc. Et j'ai commencé les entretiens. Pour les entretiens, oui, c'est tout à fait possible. Les entretiens par deux ou trois enfants, c'est tout à fait possible.
Non, mais je parle des collectifs.
Voilà. En fait, pour les collectifs, et en fait même à deux avec Lisa Mandel, des fois... C'est aussi ça qu'on n'a peut-être pas assez dit là, mais c'est épuisant, en fait. Alors moi, je sors à chaque fois de là en me disant, mais un STIT, c'est un métier qui n'est pas du tout assez valorisé, qui n'est pas assez payé, dont il faut des... Enfin, je sais pas comment ils font. Effectivement, surtout, mais après, voilà, c'est renforcé par le fait que nous, on leur disait qu'ils pouvaient dire des gros mots, que on intervenait que s'il y avait une violence physique. Donc, on sortait complètement épuisé. Et des fois, et à Saint-Denis, c'était très très dur le terrain pour ça, un côté déprimant. Ouais.
Bon, merci beaucoup en tout cas pour toutes les questions et merci pour vraiment tes
Ouais, merci.